Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le gouvernement n'a pas droit à un troisième samedi noir, tonne le président du Sénat Gérard Larcher. Au lendemain d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes émaillée de violence, édition largement consacrée aux observations et commentaires susceptibles d'éclairer cette colère qui parcourt le pays. Invité du journal Jean-Baptiste Djebari, député La République En Marche de Haute-Vienne et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Nous nous rendrons également à Jérusalem. La police israélienne recommande de nouveau l'inculpation pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Puis à la fin de cette édition, la face cachée du globe, signée Nabila. Pas de changement de cap, martelait ce matin le porte-parole du gouvernement. Nous nous sommes plantés, ajoutait le ministre de l'Intérieur et Christophe Castaner de préciser. Nous nous sommes plantés quant à la pédagogie des réformes. Nous allons prendre le temps de nommer ce qui s'est passé hier à Paris et ailleurs dans le pays. Non pas d'anticiper ce qui se prépare à l'Élysée où Emmanuel Macron préside en ce moment même une réunion de crise, mais de prendre la mesure de ce moment clé du quinquennat. D'abord, quel bilan tiré du maintien de l'ordre? La préfecture de police de Paris a livré ce matin les chiffres suivants. 421 interpellations, 378 gardes à vue, 133 blessés, un manifestant entre la vie et la mort et puis un automobiliste est décédé la nuit dernière à Arles dans un bouchon consécutif à un barrage des Gilets jaunes. Le maintien de l'ordre donc. Le président de la République s'est rendu ce matin à l'Arc de Triomphe fortement endommagé. Solène Neuen.
Au petit matin, les habitants n'avaient qu'une expression pour décrire leur quartier, une zone de guerre. Voitures calcinées, vitrines défoncées, débris de verre partout. De quoi décourager Christian Johannes, l'un des responsables du nettoyage à la mairie de Paris.
Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. On en a pour, au moins pour deux ou trois jours à remettre en état le secteur complet. Il faut remettre le mobilier urbain en place, nettoyer, enlever toutes les carcasses de voitures.
Vous aviez déjà vu ça à Paris ?
Pas de ma mémoire.
S'en est suivie la visite surprise du chef de l'État un peu plus tard pour constater les dégâts sur l'Arc de Triomphe. Des tags anti-Macron et pro-gilets jaunes qui ont choqué de nombreux Parisiens comme Patricia.
Moi je suis pour les gilets jaunes, je peux vous le dire, 100%, parce que le peuple en a assez. Mais autant de désastres, c'est quand même malheureux.
Et l'Arc de Triomphe, les graffitis ?
Là, franchement, là, oui. Ça, je le reconnais, c'est inadmissible.
Et la priorité aujourd'hui pour les autorités, c'est de nettoyer entièrement ce quartier extrêmement touristique, surtout à l'approche des fêtes de Noël.
Nous sommes en ligne maintenant avec Élodie Pépin de France Bleu Provence. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Vous suivi les mobilisations des Gilets jaunes à Marseille et environ. Ils sont d'ailleurs encore sur le terrain. Élodie, qui était hier soir sur le Vieux-Port et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, hier à Marseille, il y avait en fait plusieurs manifestations qui se déroulaient, dont celle des Gilets jaunes, celle contre la précarité ou encore une marche contre l'habitat indigne. Et c'est au moment où en fait elles se sont regroupées que la situation s'est dégradée. Arrivées sur la Canebière au niveau du Vieux-Port, les manifestants ont voulu rejoindre la mairie, mais il y avait un important dispositif policier qui était en place. Il y a donc eu des bombes lacrymogènes lancées. Les manifestants ont ensuite saisi des barrières et des objets pour les lancer sur les CRS. Des sapins de Noël ont été incendiés, des poubelles également, une voiture de police a été brûlée. Alors ce matin, sur le marché de Noël, il n'y a aucun dégât pour les commerçants qui avaient pour ordre de baisser le rideau dès 13h hier. Et ce matin, dans les rues, on peut voir tout de même les dégâts. Rue Saint-Ferréol, notamment, 4 magasins ont leurs vitres brisées. Un magasin de téléphone a été pillé et une boutique de luxe commence à réparer les dégâts, à réparer la vitrine. Vous me demandiez qui sont les casseurs, difficile de répondre à cette question. Je vous l'ai dit, plusieurs manifestations étaient organisées en même temps. Les casseurs peuvent donc faire partie de ces 3 principales manifestations.
Merci à vous, Élodie Pépin, en direct de France Bleu Provence. Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Jean-Baptiste Djebari, vous êtes censé être en ligne, m'entendez-vous ?
Oui, il est là.
Vous êtes là, je ne vous entends pas. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Vienne et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. M'entendez-vous cette fois, monsieur Djebari ?
Oui, très bien.
Voilà, les symboles du pouvoir et de l'autorité de l'État ont été pris pour cible à Paris et ailleurs. Alors, état d'urgence ou pas, c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui pose la question. Votre réponse ?
D'abord, moi, je trouve désolant de voir les violences commises contre les forces de l'ordre, contre les symboles même de la République, entre les Français. Et la réponse aujourd'hui, elle est double. Elle est policière et judiciaire contre ceux qui cassent, gilets jaunes ou pas, et elle est évidemment politique pour sortir de ce moment de crispation sociale qui est aussi le fruit de 30 ans de politique couarde où les vraies réformes n'ont pas été faites, je pense, à la formation, au système institutionnel ou encore au régime des retraites.
On va y venir à ce temps politique plus long. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Mais d'abord avec vous, prenons le pouls des déclarations politiques et elles sont fortes quelquefois.
Oui, signe que la situation échappe un peu au gouvernement. Le Sénat a convoqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez, la commission des lois qui s'était déjà emparée des dysfonctionnements constatés à l'Élysée l'été dernier dans le cadre de l'affaire Benalla. Alors l'audition, elle aura lieu mardi à 16h15. Le gouvernement n'a pas droit à un troisième samedi noir, a dit ce matin Gérard Larcher, le sénateur qui veut savoir ce que le ministère de l'Intérieur compte mettre en place en cas de nouvelles manifestations. Christophe Castaner, dont le mouvement de Benoît Hamon, Génération, a demandé la démission dans la matinée. Chez les socialistes, on en reste à la demande d'un moratoire sur les taxes, tout comme chez les républicains à l'idée d'un référendum sur la transition écologique. Au Rassemblement national, Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de recevoir les chefs de partis politiques d'opposition. Quant aux insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a évoqué avant-hier la dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, il s'est félicité hier soir de cette insurrection citoyenne qui fait, je cite, trembler la Macronie et le monde du fric. Déclaration qui n'est pas du goût de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, qui vient de s'exprimer sur France Inter, dénonce les Mélenchon, Wauquiez, Le Pen qui ont encouragé les Français à aller dans la rue et qui doivent assumer leur responsabilité en disant, je cite, que ces manifestations doivent cesser.
Merci Anne Fauquemberg. Jean-Baptiste Djebari, la réaction politique immédiate semble être épuisée. Hein. Je parle de la réaction politique immédiate, je ne parle pas du temps long. Hein.
Moi je pense que la réaction politique immédiate, c'est d'abord celle de rétablir le dialogue. Il faut sortir de cette parole politique qui paraît lointaine, qui paraît surplombante, qui paraît parfois arrogante. C'est ce que m'ont dit les Gilets jaunes, notamment quand j'ai reçu dans la circonscription.
Alors ensuite, il faut prendre...
Il y a un besoin fort de réponses différenciées dans les territoires. Les sujets en Limousin ne sont pas des sujets à Clichy-Montfermeil. Et je crois qu'il y a besoin, et ça, les Gilets jaunes le disent tous assez uniformément, il y a besoin de nouvelles formes de démocratie locale. Il faudra que nous les inventions.
Alors, justement, prendre langue. Pourquoi pas prendre langue avec les Gilets jaunes dits libres, qui, dans le journal du dimanche, publie une tribune. Ils prétendent être porteurs d'une colère constructive. Mais, monsieur Djebari, comment prendre langue avec un mouvement qui n'a aucune hiérarchie et qui n'en souhaite aucune?
Mais surtout, d'abord, on prend langue puisqu'on parle localement avec les représentants, on va dire, raisonnables de ce mouvement. En
tout cas, mais y a-t-il des représentants? Manifestement, non.
En tout cas, ceux qu'on a reçus, ils ont émis un certain nombre de revendications, mais qui parfois sont incohérentes entre elles. Ils disent tous, on veut une baisse massive des taxes, on veut la hausse des salaires et des pensions, et on veut plus de services publics. Moi, je pense que l'exercice qu'on a à faire dans les 3-4 prochains mois, c'est faire l'exercice de vérité. C'est de dire que toute proposition en soi est étudiable. Mais il faut dire à la fin, si on fait une baisse massive de charges, combien il nous reste de recettes publiques pour notamment continuer à financer notre système de santé? Et il faut dire combien, à la fin, on supprima d'emplois publics. Il faut faire cet exercice complet de vérité, de manière à ce qu'on soit pas parfois dans le simplisme politique, notamment exprimé par les oppositions, qui ne font qu'hystériser le corps social sans leur proposer des réponses qui soient viables et praticables.
Jean-Baptiste Djebari, il y a là un éveil des consciences politiques et un niveau de méfiance politique jamais atteint. La formule, la dernière, est de monsieur Vignal, Patrick Vignal, qui est votre collègue, qui est lui-même député République En Marche. Un ajustement de méthode, semblerait-il, risque d'apparaître en tout cas insultant.
Moi, je ne crois pas que de vouloir partir des besoins du territoire, de se donner 3 mois pour réunir les associations, les citoyens, les élus locaux, les parlementaires, tous ceux qui veulent venir discuter pour construire des solutions à la base et en proximité du besoin des citoyens, ce soit une insulte. C'est au contraire une façon peut-être plus pragmatique de faire que nous l'avons faite jusqu'à présent, où c'est vrai que parfois, sur quantité de sujets, il y a une parole assez verticale, assez homogène, qui consiste à traiter tous les territoires qui ont pourtant des besoins différents de la même façon. Donc moi, je ne crois pas du tout que ce soit insultant. C'est aussi faire la politique par la base, par le territoire, par le besoin au plus proche des citoyens.
Alors, très vite, et pour conclure, vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et à ce titre, l'une des chevilles ouvrières de la concertation qui va s'ouvrir. Alors, concertation sur tout le territoire, très vite, quel périmètre privilégié et quel périmètre avec quels acteurs?
Je crois qu'il faudra animer au niveau départemental et puis avoir des débats très locaux, peut-être au niveau des communautés de communes qui aujourd'hui ont des compétences, qui ont du mal parfois à les mettre en œuvre. Et c'est là vraiment que se situe l'essentiel des déplacements et de l'activité économique de nos concitoyens.
Merci à vous, Jean-Baptiste Djebari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez sans doute, en tout cas, non point douté, un œil attentif à ce qui va se passer dans les jours qui viennent à Katowice, en Pologne, où s'ouvre ce soir la grande conférence sur le climat de la COP24. Le Premier ministre israélien a sans tarder, ce matin, rejeté les conclusions de la police qui recommande une fois de plus à la justice d'inculper Benjamin Netanyahou ainsi que sa femme pour corruption. C'est une correspondance de Jérusalem de Mathias Somme.
Pour la police israélienne, le résultat de l'enquête est clair. Il y a assez de preuves pour inculper Benjamin Netanyahou et son épouse accusés de fraude, corruption et abus de confiance. C'est la recommandation adressée par les autorités au procureur général ce matin. Dans ce que l'on appelle l'affaire 4000, le premier ministre israélien aurait accordé des faveurs gouvernementales au géant de la télécommunication israélien, Bezeq. En échange, l'actionnaire majoritaire du groupe, Sholeilovitch, aurait fait pression pour exercer une couverture favorable du premier ministre et de sa famille sur le site d'information Walla appartenant au groupe. Selon l'enquête, cet accord pourrait avoir rapporté des centaines de millions de dollars au groupe de télécommunications qui aurait en échange retiré tout article critique du site. À l'époque des faits, Benjamin Netanyahou était ministre de la communication et serait intervenu directement avec son équipe sur le contenu éditorial du site d'information. Des conclusions immédiatement rejetées ce matin par le premier ministre israélien. C'est maintenant au procureur général de décider s'il inculpe ou non Sholeilovitch et le couple Netanyahou. Le premier ministre et sa famille sont aussi visés par trois autres enquêtes pour corruption.
Il est 12h41, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Au moment où sont adoptés les budgets européens, attardons-nous sur celui du Portugal, un pays endetté, d'où la crise de 2011 qui a poussé le gouvernement de l'époque à suivre une politique d'austérité douloureuse pour la population. Le budget 2019 voté jeudi par le Parlement est présenté par le Premier ministre comme celui qui alliera réduction du déficit et hausse du pouvoir d'achat. Anna Navarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante à Paris du journal Visao. À son arrivée aux affaires, la gauche avait déjà pris la décision d'assouplir sa politique en prenant dès 2016 une ligne à rebours de l'orthodoxie de l'Union européenne. Cette année, le cap est maintenu. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les Portugais ?
Il y a eu, c'est peut-être un desserrement de l'étau fiscal, financier, surtout sur les classes les plus pauvres. Et je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose d'idéologique qui a déplu dans d'autres pays européens. C'est qu'on a cessé de pomper, d'aspirer l'argent des 90% les moins bien lotis vers les 10% les mieux lotis. Et juste ça, cet oxygène économique-là, ça a permis à toute la population, à tous les secteurs économiques de commencer à regarder vers l'avenir et retrousser les manches. Mais il faut bien voir, 2019 va y avoir des élections législatives au Portugal, donc c'est de bonne guerre. Mais c'est toujours des petites touches chirurgicales, si vous voulez, des secteurs d'activité qui avaient certains problèmes. Les entreprises, certes, ont eu quand même beaucoup d'avantages parce qu'il fallait qu'elles soient le moteur de la reprise économique aussi. Et puis, il y a une grosse tranche de réduction d'impôts, 50% promis à tous les jeunes, à tous les gens qui ont quitté le Portugal depuis 2011, surtout ceux, les diplômés, s'ils veulent bien revenir s'installer au Portugal.
Il y a tout de même des questions que posent des économistes sur un budget qui ne fait rien pour augmenter le potentiel de croissance de l'économie portugaise.
Il y a quand même des mesures embryonnaires, pas suffisantes encore. Il y a un climat très favorable aux start-up. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se développer. Il y a des synergies, par exemple, entre l'agriculture et les universités. Mais n'en reste pas moins qu'on essaie de faire ce qu'on peut.
Alors, budget adopté cette semaine par la majorité de gauche, comment l'opposition a réagi ?
Alors, ils ont voté contre, mais ils n'ont pas fait un grand bataille de ce budget parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas grand-chose à redire pour l'instant. L'opposition, pour revenir à votre question, se cadre uniquement en ce moment sur le prix de l'essence en disant que c'est extrêmement cher. Mais c'est vraiment le seul point actuellement de focalisation et de combat de l'opposition, ce qui veut bien dire que pour l'instant, la politique suivie semble bien réussir au pays, dans toutes ses limitations et dans tous ses problèmes.
Merci à vous, Anna Navarro. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du journal Visao. En Indonésie, Une application mobile destinée à signaler aux autorités des cas d'hérésie suscite l'émoi chez les défenseurs des droits de l'homme. Ils la jugent dangereuse et surtout susceptible d'être instrumentalisée par des organisations extrémistes, avec le risque d'aggraver les attaques contre les minorités religieuses dans le pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde. À Jakarta, la correspondance de Joël Brunner.
Guide d'information des bonnes pratiques religieuses à destination du grand public ou bien instrument de délation visant à opprimer les minorités. Voilà le débat qui a entouré la sortie d'une toute nouvelle application indonésienne baptisée Smart Pakem. Celle-ci permet notamment aux utilisateurs de fournir des informations sur les groupes qui ne pratiquent pas stricto sensu une des 6 religions reconnues par cet État d'Asie du Sud-Est, dont 90% des 265 millions d'habitants sont de confession musulmane. Dans un pays marqué par la poussée progressive des mouvements radicaux, où le gouverneur chrétien de la capitale Jakarta a été condamné à 2 ans de prison pour blasphème l'an dernier, et où certaines minorités, animistes ou hamadis, souffrent de discrimination régulière, la nouvelle application a suscité une fronde immédiate de la part des défenseurs des droits. Face à cette levée de boucliers, l'application était désormais introuvable en fin de semaine sur le magasin en ligne de Google, où elle était pourtant disponible depuis dimanche dernier.
Il se disait distant de la politique. Jack Ma, le fondateur du géant chinois du commerce Alibaba, est bien membre du Parti communiste. Cette révélation a été faite par le quotidien du peuple, le journal du Parti communiste chinois. L'homme le plus riche de Chine n'avait pas précisé ce détail lors de l'introduction d'Alibaba à la Bourse de New York en 2014. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabil Hamel. Cette dernière information s'agissant du mouvement et de la mobilisation des Gilets jaunes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande au ministre de l'Intérieur de la recevoir, ainsi que les maires des arrondissements de la capitale touchés hier soir par les violences et dégradations. De la pluie un peu partout sur le territoire avec des températures de saison, 14 degrés à Nice, tout de même 15 à Paris, 17 degrés à Biarritz. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille.